comme le Lesotho et Madagascar. Dans un contexte de diminution de l'aide bilatérale au développement, l'institution appelle les bailleurs à continuer de soutenir l'Afrique subsaharienne. Le FMI salue la résilience.
Radio G. Radio-G.fr. Un point, c'est tout.
Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent
terrible, j'ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé.
Assise près de l'incubateur. Espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Bonjour, amis auditeurs. Nous vous conduisons aujourd'hui au cœur d'un Canada sauvage avec le livre de Peter Fromm, Le lac de nulle part. Pour les avoir lui-même fréquentés en tant que baroudeur, puis biologiste et ranger, Peter Fromm, aujourd'hui romancier et nouvelliste, connaît bien ces espaces infinis du Canada où l'on peut se déplacer sans fin de lac en lac. Il peint une nature magnifique, belle, forte, dont il dit qu'elle devient un personnage du récit, mais dont il dit aussi qu'il est possible de s'y perdre sans être secouru. C'est Trigg, le fils, qui raconte cette aventure proposée à lui-même et à sa sœur jumelle Al, par leur père qui les emmène sur un lieu de leur enfance. Mais le voyage ne se passera pas comme prévu.
Les doutes soulevés par son premier texto se confirment à Minneapolis, sitôt que je retrouve papa non pas devant la zone de retrait des bagages, martelant avec impatience le volant de l'aventure mobile, mais en train d'errer dans les tréfonds du terminal E, du côté contrôlé du point de contrôle. Il a l'air un peu perdu, un peu désœuvré. Il m'aperçoit et se met à faire de grands gestes, comme s'il avait tout prévu à la seconde près. En réalité, il paraît surtout soulagé. Nous fendons la foule, il me tape dans le dos et m'interroge sur le vol depuis San Francisco. « Comment tu t'es débrouillé pour passer le point de contrôle ?» dis-je au même moment. Au lieu de me répondre, il me touche le coude pour me faire pivoter. « Ce ne serait pas une femme ?» au moins aussi grande qu'Al, et tout aussi blonde, déambule devant nous, un sac étanche usé à l'épaule. Elle ne semble pas tant se diriger vers un lieu précis que faire du lèche-vitrine. « Al !» Elle sursaute, à croire qu'elle s'est fait prendre en flagrant délit. La seule femme au monde qui réponde au nom de Al. Son visage a beau s'éclairer d'un large sourire, quand elle m'étreint, je la sens scruter papa par-dessus mon épaule. Ils n'échangent pas un mot, déjà. Elle s'écarte et s'accroche à mon bras, manœuvrant de sorte à me placer entre eux en bouclier humain. Je hausse les épaules, regarde papa et lui demande s'il est venu en avion, même si c'est peu probable. Je ne suis pas venue à pied. J'étais persuadée qu'il m'attendrait dans sa vieille Chevrolet au pare-brise fissuré et maculé d'insectes, deux ou trois canoës chargés jusqu'au plat-bord sur la galerie soudée à la main. Comme si nous n'avions jamais cessé de nous retrouver ainsi. Vu le coup d'œil qu'elle m'adresse, Al pensait la même chose. Alors, dis-je, nous suivons les panneaux indiquant la zone de retrait des bagages. Qu'est-ce qui se passe ? Papa balaye la question d'un revers de main. En temps voulu, en temps voulu. Incroyable. Papa, l'homme capable de transformer en saga épique le plus banal des événements, qui laisse passer une occasion de raconter une histoire. Une fois devant le tapis roulant, nous l'observons décrire sa boucle infinie. Les voyageurs récupèrent leurs valises, la foule se disperse, Al et moi saisissons nos sacs, mais papa reste immobile, aucune de ses affaires ne se matérialisant sous nos yeux. « Tu as tout le temps de nous expliquer ce qui est arrivé à l'aventure mobile, dis-je. » Papa ne détache pas les yeux du tapis. « J'ai réservé 3 places sur un vol à destination d'International Falls pour nous éviter un voyage en voiture. » « Pour nous éviter un voyage en voiture ?» s'étonne Al. Papa aime conduire presque autant qu'il aime les histoires. Son silence est aussi inquiétant que l'absence de l'aventure mobile. Enfin, il s'empare d'un sac de toile, rien de plus. Maintenant, nous sommes seuls dans le hall, hormis 2 valises solitaires ainsi qu'un siège pour bébé dans un emballage plastique à motif cœur. Quel genre de personne oublie un siège pour bébé ? Qu'en est-il du bébé ? Sans avoir répondu à une seule question, papa tourne les talons. Nous le suivons. Toutefois, je refuse de lâcher le morceau. Alors, qu'est-ce que tu as oublié ? Juste les trucs essentiels ? Il se fige, me dévisage. Pourquoi m'embêterais-je à prendre des bagages que je ne considère pas comme essentiels, Trig ? Pour le simple plaisir de porter du poids superflu ? C'est bon, je me tais. Il plaisantait, je crois, dit Al.
Lorsque nous étions encore une famille, nous faisions de longs périples en voiture. Montana North Road, au Montana Boundary Waters, l'ancien terrain de jeu de papa. Al et moi ne mesurions pas la vastitude de la région et trouvons trop placide l'activité consistant à pagayer sur les lacs comparée aux descentes de rapides. Nous étions étonnés que papa ait fait ses armes sur des eaux si dociles. Le soir, près du feu, j'étudiais ses cartes, où le bleu l'emportait sur le vert, un monde inversé. La terre ferme était l'obstacle, les lacs, les lieux de vie, traversés par de petites rivières d'arbres et de granit. Certaines nuits, je me réveillais terrifiée. Le feu ne brûlait plus, le ciel grouillait d'étoiles. Je craignais que nous ne sortions jamais de ce labyrinthe. À la fin, sitôt que nous prenions la route, j'anticipais tout en le redoutant le moment où j'apercevrais les premières plaques du Minnesota, vantant ses 10 000 lacs. Les locaux aussi devaient avoir peur, peut-être trop pour affronter le vrai nombre de lacs de la région. 100 000 au moins, un état submergé. Hélas, les aventures comme les visites estivales ont fini par se tarir. Papa est retourné vivre dans le Wisconsin avec sa mère, que l'on retrouvait en train d'errer dans la rue, de plus en plus désorienté. Al et moi avons poursuivi notre chemin. Après le lycée, Al est parti à Denver avec un type. Et moi, j'ai commis mon impardonnable acte de rébellion. Je suis allé en Californie. La dernière fois que j'ai vu papa, c'était aux funérailles de sa mère. 2 ans qu'on ne s'était pas parlé. Je me rappelle encore sa manière de pincer les lèvres quand je lui ai annoncé qu'Al n'avait pu se libérer, un client important. Ensuite, il est resté sur place pour régler deux ou trois trucs. Soudain, il était d'un côté du Mississippi, occupé à je ne sais quoi maintenant que sa mère n'était plus, et nous étions de l'autre, absorbés par nos emplois, nos villes. Jusqu'à ce qu'il débarque dans nos vies, sans crier gare, par le biais d'un texto réclamant une dernière aventure. Assis dans ma voiture, les yeux rivés sur le texto, j'ai à peine eu le temps de descendre afin de ne pas trahir mon mode de vie que mon portable a vibré une deuxième fois. Al, sur FaceTime. Sidérée, elle n'arrêtait pas de répéter. Une aventure ? Comme papa, à la Gandalf. Une quête ? Hilar, on s'est demandé à quoi ressemblerait un mois dans un canoë, en sa compagnie. Si Al paraissait dubitative, nous étions tous deux grisés à l'idée d'être à nouveau réunis. Nous avons voulu compter les années écoulées depuis nos dernières retrouvailles, puis nous avons laissé tomber. Peut-être valait-il mieux ne pas savoir. « Je ne partirai pas sans toi, Trigg !» a décrété Al en reprenant son souffle. « Impossible. Tu peux poser un mois de congé, malgré ton projet de domination globale ?» Des années que j'ai su ce genre de vanne. Dans ma famille, poursuivre une carrière dans la finance, c'est plus ou moins admettre qu'on souhaite passer sa vie à nager dans une piscine remplie de pièces d'or, genre oncle Picsou. J'ai failli évoquer mon licenciement, puis je me suis ravisée. « Et comment va j'ai mis quelques secondes à me remémorer son nom. Brent. « Ah, Brent peut se faire foutre !» J'ai pas pu m'empêcher de sourire. « Et toi, j'ai beau chercher, aucun nom ne me vient à l'esprit. » Touchée. Au lieu d'exulter, elle s'est approchée de la caméra pour scruter mes environs. « Mais t'es où, bordel ?»« Je pêche. » Mini-campement, mini-aventure. Tu pêches? T'as fait une OPA sur une entreprise de canne à mouche ou quoi? J'ai hoché la tête. Une journée de travail comme les autres. Bon, tu peux prendre des vacances ou pas? Tu viens? Si tu viens aussi. Vendu. Soudain, elle a eu l'air songeur. Quoi? On est en octobre. Je sais. Un peu tard pour faire du canoë. Nous avons tiré à pile ou face pour déterminer qui aborderait le sujet avec papa. J'ai choisi face. « Pile !» a-t-elle hurlé, aussitôt que la pièce a atterri sans prendre la peine de me la montrer. « Ah, tu me raconteras » a-t-elle ajouté avant que je puisse l'accuser d'avoir triché. Lorsque j'ai parlé des dates à papa, sa réponse ne m'a pas vraiment surpris. « Si tu attends un beau jour, tu attends toujours. » À mon humble avis, sauter une saison entière n'est pas la même chose qu'attendre un beau jour. Toutefois, je n'ai pas discuté. Je préférais l'idée de camper à celle de dormir dans ma voiture. J'ai rappelé Al. « Pourquoi il est si pressé, à ton avis ? » a-t-elle demandé. « Mais pourquoi maintenant ? Et cette formule, une dernière aventure, je flippe un peu. » Comme elle, j'étais intriguée et j'avais peur, même si j'étais reconnaissant à papa, de m'offrir une porte de sortie. Il s'était montré tout aussi mystérieux à propos de la maladie de sa mère. À sa mort, il s'était contenté de nous envoyer un message précisant la date et le lieu de funérailles. « J'aimerais que vous soyez là. » Pendant la cérémonie, quand je lui ai demandé la raison de son silence, il a répondu « Quoi ? Tu pensais pouvoir guérir son Alzheimer ?» Naturellement, on s'attendait à une révélation du même acabit. Allait-il nous charger de répandre ses cendres cette fois ?« Oh, ne me donne pas de faux espoirs !» a lâché Al dans un rire. « Il fera trop froid pour les moustiques, n'oublie pas tes caleçons longs !» Je possède autant de caleçons longs que la plupart des Californiens. N'empêche, revoir Al, j'en avais presque le souffle coupé. T'es toujours d'accord alors, malgré le temps ? Elle a acquiescé. Toi et moi, contre le monde entier. Elle était déjà occupée à réserver un vol. Al, quelque chose dans ma voix lui a fait lever les yeux. Ne te défile pas maintenant, Trigg, je suis en train de régler mon billet. Je ne me défile pas, j'ai placé tout mon argent dans de nouvelles actions et absolument tout. Elle a attendu les yeux rivés sur moi au lieu du ruisseau dans mon dos. Et ? Ben, les bénéfices vont être colossaux. D'ici là, tu crois que tu pourrais m'avancer de quoi payer mon billet ? Je rembourserai au centuple. T'es sérieux ? J'ai opiné. Ben, je m'en occupe, inutile de me rembourser au centuple. Inutile de me rembourser tout court. Quelques minutes plus tard, j'ai reçu un texto avec les références du billet. Je suis retournée en ville et j'ai roulé en direction de l'aéroport. Une dernière nuit dans ma voiture, qui contenait déjà tout ce que j'étais susceptible d'emporter pour une expédition d'un mois en canoë. Toutes mes possessions. Une aventure.
On est là pour répandre les cendres de notre grand-mère, dit Al. Surpris, je cligne des yeux.
Quoi ?
Al se fend d'un sourire radieux qui éclipse les pitrerées de papa. Vous comptez rester un mois à ce que je vois, dit le ranger au lieu de faire un commentaire sur les cendres.
Maximum, dit papa.
Les jumeaux n'ont pas pu poser plus de jours. Donc, vous serez encore dans le parc en novembre, papa acquiesce. Et qui viendra vous secourir si vous rencontrez un problème ? Papa contemple le sol. Il n'y aura pas de problème. Le parc compte 400 000 hectares de forêt, 1 million d'acres. Tous les lacs se ressemblent, d'autant plus quand il neige. On a des cartes, dit papa. Et un GPS, dis-je. Le ranger me dévisage. Sur votre téléphone, vous avez pensé au réseau, à la batterie ? Papa se tient aussi droit que possible. Pourtant, il n'est pas de taille à lutter contre Dudley Dwight. On a des cartes, répète-t-il. Et on n'a pas peur de s'en servir, ajoute Al en rallumant son sourire. À l'évidence, il impressionne beaucoup plus le ranger que la posture virile de papa. Je jette un œil sur son badge. Chad. Et non pas Dudley. Quelle déception. On nous conduit à une carte punaisée sur le mur afin que nous détaillions notre parcours. Aussitôt, papa se met à égrener les noms des lacs comme s'il s'agissait de ses propres enfants. Il suit du doigt le tracé des ruisseaux et des rivières, survole les portages, tapote les emplacements de camping. C'est un planificateur hors pair. Il passe des nuits entières à mettre au point ses itinéraires, qu'il visualise ensuite dans son esprit. Le ranger hoche la tête, suffisamment convaincu pour valider notre permis, non sans nous lancer un ultime avertissement. Il n'y a rien de pire que de pagayer sur la glace, dit-il. Si on attend un beau jour, on attend toujours, répondons Ali et moi en chœur. Mignon, dit le ranger.
Ce soir-là, après une autre longue journée à pagayer et à porter les canoës, en route vers je ne sais où, un autre dîner de poisson, une autre petite goutte, je demande... On pourra jeter un œil sur les cartes quand on aura installé le hamac ? Papa lève la tête, les yeux luisants dans la lumière du feu. Oh, il fait presque nuit, Trille. Super timing, comme d'hab. On a les lampes frontales ? Il grimace. Bah, juste pour avoir une idée d'où on va. Prenant soin d'éviter mon regard, il saisit un bout de bois, le place avec délicatesse sur les braises. Je prends une profonde inspiration... puis une autre, Pourtant, je suis incapable de me taire. Il n'y a pas de carte, je me trompe. Al se tourne vers moi, et je continue de scruter papa qui, concentré sur le feu, secoue lentement la tête, un geste presque imperceptible. La pampille de son bonnet remue à peine. Elles étaient dans le Duluth. Je sais précisément où, dans le compartiment à l'avant.
Tu veux dire qu'on...
dit Al.
On avance à l'aveugle depuis le début?
Papa secoue la tête plus fermement cette fois.
Je ne vous ferai pas une chose pareille.
En mon fort intérieur, je pense, n'est-ce pas ce que tu as toujours fait?
Vraiment? Dis-je.
Plus une déclaration qu'une question.
Je sais où on va. J'ai tout planifié. Demain matin, je vous dessinerai un plan.
En traînant un bâton dans le sable, nous en avons vu des centaines de ces fameux plans.
Est-ce que j'ai raté un seul portage, Trigg? Un seul emplacement?
Comment veux-tu que je le sache? Je ne sais même pas où on va.
Moi, je sais.
Et s'il y a du brouillard? De la pluie? De la neige? Enfin, il détache ses yeux du feu et les pose sur moi.
Les cartes n'empêchent pas ce genre de désagrément.
Donc, on est juste censé te suivre sans savoir comment rentrer.
Les jours suivants, mes nuits dans le hamac se déroulent sans accroc. Le ciel reste dégagé, les journées sont courtes mais belles. La température ne chute pas de manière drastique à la tombée de la nuit. Pourtant, le froid s'installe tandis que nous poursuivons notre fuite en avant. La rosée se transforme en givre et je commence à tendre la bâche pour éviter d'en être recouvert au réveil. Chaque soir, papa fait un énorme sacrifice et me donne son bonnet de trappeur, non sans me rappeler qu'il s'agit d'un prêt temporaire. Ensuite, je partage un joint avec Al et m'endors sans prêter attention au froid, sachant papa à l'abri dans sa tente, Al à l'abri dans la sienne, qu'elle installe de plus en plus loin du feu, de lui, si près de moi que j'ai l'impression de dormir avec elle. Si près qu'on pourrait presque chuchoter. À l'aube, je suis le premier à laisser des traces. Sauf si je croise celle de papa, une pause pipi nocturne. Le temps que je rassemble assez d'aiguilles et de brindilles pour préparer le feu, j'ai les doigts complètement engourdis. Un de ces quatre, il faudra que je pense à m'en occuper la veille, mais après la fumette. Ce givre qui part de dentelle blanche notre campement, chaque jour plus isolé que le précédent, et fait crisser mes pas au réveil, ce givre où je vois des empreintes de cerfs, d'écureuils et d'animaux minuscules, des souris peut-être, autant de choses sympathiques si nous avions une cabane où nous réfugier, un feu rugissant, dans un âtre en pierre, des raquettes au mur, une peau d'ours sur le plancher. Ce givre vient un jour où je ne peux plus l'ignorer. Alors, j'attends près du feu. Face à moi, Al enfouit son visage dans sa tasse. Enfin, papa titube hors de sa tente et s'éloigne pour pisser, se détendre le dos et les jambes. À son retour, la démarche un peu moins frankensteinienne, il se réchauffe les mains au-dessus des braises. Je brise la pellicule de glace au fond de sa tasse pour le servir et, tâchant de ne pas adopter un ton géniard ou accusateur, je déclare « On sera bientôt pris par la glace, papa. De la vraie glace. » Il s'empare de sa tasse, avale une gorgée, sursaute. « Mieux vaut attendre qu'il refroidisse, lâche Al, sans lever les yeux. « Merci. » « Papa, on est presque arrivé, Trigg. »« Ah, parce qu'il y a une destination ?»« Le trésor enfoui, » dit Al. « Non, » dit papa, « rien à voir. » Il serre sa tasse entre ses mains, souffle sur son café, observe la vapeur qui se reforme. Al m'adresse un regard en coin. « Pas de trésor enfoui. » Une semaine et demie qu'on voyage, papa. On va mettre aussi longtemps à rentrer. Si la température continue de baisser, on va être obligé d'hiverner ici en mode survie. Inutile d'être si dramatique, Trigg. Il est trop tôt pour ça. Il me toise par-dessus ma tasse. Ne me dérange pas avant mon café. Parce que tu as prévu quelque chose. On abandonne les canoës. On fabrique des raquettes pour continuer à pied. Une manière merveilleuse de fêter Noël. Noël, d'où Jésus? Jésus dans sa crèche. Al souriait le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne m'aide pas. Entouré des rois mages, puisqu'on parle de miracles. Et dans combien de jours on est censé atteindre ta destination mystérieuse? Aujourd'hui, je pense, ou demain. Et après, on fait demi-tour. Papa lance un clin d'œil à Al. Ne t'inquiète pas, Trigg, tu la retrouveras, ta Californie, sain et sauf. Je suis à deux doigts de lui balancer mon café à la figure. Un jour de plus, très bien. Deux, et je rebrousse chemin, seul s'il le faut. Lorsque nous chargeons les canoës, il n'est plus question de cartes dans le sable. À nouveau, j'embarque avec papa. Al n'a pas navigué une seule fois avec lui. Je nous propulse sur l'eau en jetant un dernier regard en arrière pour mémoriser la piste. Quelque chose que j'aurais dû faire dès le début.
Comme chaque matin de cette aventure, chaque matin de ma vie, je me réveille en premier pour découvrir qu'Al et moi nous sommes encore rapprochés dans la nuit. Je sens sa respiration contre ma joue. La seule parcelle de peau exposée entre le duvet et le bonnet de papa. Le plus discrètement possible, je repousse le bonnet sur mon front avant de le retirer complètement. Je ne vois pas mieux pour autant. La tente est aussi noire qu'une tombe et la respiration d'Al me semble la seule chose tangible au monde. Je remonte une épaule, puis l'autre. J'essaye de m'extraire du duvet en me tortillant. Deux semaines de hamac, et c'est comme si je n'avais jamais dormi avec quelqu'un d'autre. Al change de position, me tourne le dos. Telle devait être notre vie dans l'utérus. J'achève ma mue, trouve mon pantalon, glisse mes jambes dedans. À tâtons, je cherche mon sweat à capuche, repère les cordons, le drape en travers de mes cuisses et insère mes bras, le passe par-dessus ma tête. Les manches remontent sur mes coudes au moment où j'enfile ma veste. J'enfonce le bonnet sur mes oreilles. La lumière strie les arbres lestés par la neige, la façade de la tente de papa qui continue de dormir malgré les craquements. Pas un ronflement ne vient troubler l'air du petit jour. Je m'assois et j'attends, incapable de réprimer un sourire. Désormais, la neige est indéniable. Nous n'avons plus d'autre choix que de rebrousser chemin. Aucune discussion possible. Nous avons eu de la chance. Le vent affaiblit La neige est tombée en douceur, une tempête de boules de neige. Très vite, à l'air libre, sans protection, mes doigts commencent à brûler. Je les plonge dans les grosses moufles et les frotte contre mon torse. Moins 20 degrés, au moins. Je prends mon temps. J'époussette la neige, je vérifie que tout est prêt pour le départ. À condition qu'Al et papa se réveillent un jour, bien sûr. Enfin, je fais demi-tour et prépare un autre café, attisant les flammes. Puis, n'y tenant plus, je me dirige vers la tente de papa avec sa vieille tasse en acier émaillé, noircie, ébréchée, cabossée. Elle lui brûlera les lèvres à la première gorgée, manquera les gelées à la dernière. Rien. Je tasse la neige devant l'entrée afin d'éviter qu'il s'y enfonce au moment d'enfiler ses chaussures. Papa ? C'est la première fois qu'aucun ronflement ne s'échappe de sa tente. Peut-être aurais-je dû m'en inquiéter plus tôt. T'es toujours vivant, là-dedans ? Je secoue un des arceaux, déclenchant une mini-avalanche. Le café est prêt. On a un long chemin à parcourir aujourd'hui. J'attends et secoue l'arceau plus fort. Papa, allez ! Je n'ai jamais eu besoin de le réveiller avant. Je jette un œil vers la tente d'Al, mais elle l'a plantée en contrebas de la colline, hors de ma vue. Al serait capable de dormir toute la journée. Je pose la tasse de papa dans la neige. Le temps qu'il termine ses ablutions, le café aura gelé. Je m'agenouille, ôte une moufle, monte le zip du double toit. Papa aussi a relevé la moustiquaire. Le duvet déborde presque dans l'auvent. J'agrippe l'extrémité de son duvet. Aucune réaction. Je tends le bras pour lui attraper un orteil, comme il le faisait avant, nous traînant dehors pour le petit déjeuner, l'école, une nouvelle aventure. Ne trouvant pas son pied, il doit dormir en position fœtale, je tire sur le duvet en chantonnant. Dame souris trotte, rose dans les rayons bleus, dame souris trotte, debout, paresseux! Serait-il malade? Recroquevillé sur lui-même, en proie à la fièvre, que ferons-nous si c'est le cas? Le duvet glisse jusqu'à moi. Perplexe, je m'agenouille. Où se cache papa? Pourquoi? Ainsi qu'il fallait s'y attendre, je me retrouve face à une tente vide. Je fais volte-face. Peut-être avance-t-il sur la pointe des pieds, dans mon dos, pour reprendre son bonnet en douce, le visage éclairé d'un large sourire. Peut-être attend-il que je le remercie de m'avoir sauvé la vie grâce à sa vieille calotte loqueteuse. Mais je ne vois rien, hormis l'hiver, immuable et silencieux. Al ! Un croassement digne d'un corbeau. Je me racle la gorge. Al ! Pas de réponse. Je repense au canoë sur la plage. Serait-il allé pêcher des crapets en pleine nuit ? À moins qu'il ne soit sur l'eau en ce moment même, à la recherche d'un meilleur portage, ayant gagné le lac pendant que j'étais occupée à rassembler le bois. Non, je les aurais forcément vus. Ou peut-être que papa, trop frigorifié pour rester seul, a rejoint Al dans sa tente. Mais alors il aurait laissé des traces. En une fraction de seconde, un tsunami d'explications absurdes déferle dans mon cerveau. Je me lève d'un bond, les genoux et les moufles maculés de neige, et regarde alentour. Le feu rugit, la gamelle fume. À l'est, derrière les nuages, le ciel s'éclaircit et mes traces dessinent des ombres dans la neige fraîche. Je me précipite vers la tente d'Al. Papa, Al ! Je tombe à genoux devant l'entrée où Al m'accueille avec un grommellement. Mais qu'est-ce qu'il y a, putain ? J'en ai le souffle coupé, de la savoir encore là. Une preuve, enfin, que je ne me suis pas réveillée seule au monde. Je triture le zip. Mais tu fous quoi, Trig ? Aussi vite que possible, j'ouvre le double toit. Papa a disparu, Al. Hein ? De quoi tu parles ? Il a disparu. Elle s'appuie sur un coude, me regarde les cheveux dressés sur la tête. Merde, Trig, détends-toi, il peut pas avoir disparu, il... Papa s'est volatilisé, Al. Avant la neige, il a neigé ? Je ramasse une poignée de neige, l'agite sous son nez. Et qu'est-ce que tu racontes ? Il a disparu. Elle secoue la tête, se prend les doigts dans les cheveux en essayant de les démêler. « Il ne peut pas être parti, Trigg, il n'a nulle part où aller !»« Al, je suis debout depuis des heures, j'ai vidé une gamelle de café tout seul et... »« Sans déconner ?» Comme il ne se levait pas, j'ai voulu le réveiller, j'ai trouvé sa tente vide, son duvet est vide. » Al cesse de se tripoter les cheveux. « Les canoës sont tous les deux là, je les ai préparés. » Elle enfile son pantalon, glisse les bras dans les manches de son manteau. « Il n'y a pas de traces, Al, la neige a tout recouvert. »« Sa tente était fermée ?» Elle se presse au-devant de moi et se débat avec ses lacets. « Scellée comme un baril. » Elle enfonce le talon dans une chaussure, tape du pied. « Attends une seconde !» Elle fait quelques pas dehors, je me détourne lorsqu'elle s'accroupit derrière un arbre. Elle revient en remontant son pantalon. « Ok. » Au lieu de foncer au-devant de moi, elle me suit jusqu'à la tente de papa, pose un genou à terre ainsi que je l'ai fait plus tôt, saisit un coin du duvet. « Il n'est même pas tiède. » « Al, quand je me suis levée, il y a 2 heures, la neige ne tombait plus. Mais il a beaucoup neigé pendant la nuit. Les seules traces visibles sont les miennes. » Je gesticule en direction de la neige. « Papa a dû partir, il y a un paquet de temps. » À 4 pattes, elle pénètre dans la tente. « Tu crois qu'il se cache ou quoi ?» Bien évidemment, j'ai fait exactement la même chose. Elle ressort, scrute le sol. « Ses habits sont là. C'est son pantalon, son manteau, avec les moufles dans les poches. » Je balaye le vent du regard. « Ses chaussures ont disparu. » Un élément positif, enfin. Il s'est peut-être perdu en allant pisser. Al se tourne vers les arbres. Toute la nuit, sans ses habits. Comment aurait-il pu se perdre quelques pas à l'aller, quelques pas au retour? Al hausse ses épaules. Il neigeait peut-être déjà, il n'avait pas pris de lampe. Elle me regarde. Il ne prend jamais de lampe. Nous restons plantés devant la tente jusqu'à ce que le feu nous attire à lui, sa chaleur, sa lumière, son odeur même. Ton café est prêt? Al prend sa tasse. Je ne l'ai pas sucré. Elle se penche sur le paquet. On devrait se mettre à sa recherche, dis-je. Elle hoche la tête, sans détacher les yeux du feu. L'air aussi perdu que papa doit l'être. Avec mon bâton, je retire la gamelle des braises. Al saisit la gourde et verse un filet d'eau sur le café. Pour couler le marc, murmure-t-elle. Je vide la tasse de papa dans la gamelle, puis je la remplis de café chaud. Voilà à quoi se résume notre plan, nos préparatifs. Nous retournons à sa tente, sur les lieux du crime. « Papa !» J'ai crié aussi fort que j'ai pu. La neige a beau atténuer les sons, nous restons immobiles, les oreilles bourdonnantes, aux aguets.
Chers auditeurs, nous n'en dirons pas plus. Vous avez compris qu'au-delà d'un voyage dans les espaces infinis du Canada, Pete Fromm nous propose un autre voyage, l'exploration de liens familiaux, de jardins secrets, de forts intérieurs et leur complexité. Alors, nous vous invitons vivement à poursuivre ce récit passionnant. Les lectures étaient faites aujourd'hui par Anne et Monique. La partie technique était assurée par Claude Michel. Les passages musicaux sont de Philippe Glass.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez.
Yeah.